Léa Salamé, votre invitée ce matin est président directeur général du groupe TF1.
Bonjour à vous Gilles Pélisson.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin. Alors que la future loi audiovisuelle suscite des remous dans le service public avec un mouvement de grève que vous avez pu constater, chers auditeurs, eh bien cette future loi provoque aussi votre mécontentement, les chaînes privées. C'est-à-dire vous, le patron de TF1, mais aussi les patrons de M6, de Canal, de BFM. Vous avez poussé un coup de gueule tous les quatre la semaine dernière contre cette future loi. Un coup de gueule que ne comprend pas le ministre Franck Riester, qui vous répond assez vivement ce matin dans Les Échos. Cette loi sera bénéfique pour les chaînes privées, alors pourquoi se plaignent-elles? Elles font du lobbying à l'ancienne. En gros, vous n'êtes jamais content.
Oui, en fait, on est en train de dire au ministre simplement, allez au bout de vos idées. Vous nous avez laissé penser qu'on avait un rendez-vous avec l'histoire, et nous, nous pensons qu'il y a un rendez-vous avec l'histoire, parce que jamais nos modèles économiques n'ont été aussi fragilisés. Vous avez aujourd'hui 6 millions de Français qui sont déjà abonnés à Netflix. Ce qui va arriver en mars prochain avec Disney, Disney+, ça coûtera 6,99€. On a déjà vu ce qu'ils ont lancé aux États-Unis. Ça va être un choix fabuleux et normalement, les familles françaises iront s'abonner à ces programmes. Et comme les journées n'ont que 24 heures, à un moment, on regarde un peu moins la télévision. Donc par rapport à la fragilisation de notre modèle économique, on dit simplement aujourd'hui, nous sommes encore le pays d'Europe qui a le plus d'obligations, de contraintes, d'interdictions sur nos écrans. Et si je prends deux exemples, comme la publicité pour le cinéma, nous finançons le cinéma depuis des années. Un film comme Hors Normes qui actuellement fait un tabac sur les écrans.
Nakash Toledano.
Il n'y a même pas de publicité possible sur TF1. Et quand vos auditeurs regardent le bazar de la charité la semaine dernière, qu'est-ce qu'ils voient dans la publicité? Ils voient des publicités pour Netflix, ils voient des publicités pour Amazon. Mais si moi, je dois pouvoir bénéficier en tant que financeur TF1 de la publicité d'un film, je n'y ai pas droit. Et là, le ministre nous dit, écoutez, on va ouvrir.
Bah oui,
on va vous permettre de faire un peu de publicité. Mais on va pas vous ouvrir la totalité, comme c'est possible sur Internet, puisque beaucoup de publicité aujourd'hui a lieu sur Internet.
Il faut garder quelques règles. Par exemple, vous allez pouvoir faire de la publicité pour le cinéma, mais pas seulement pour les blockbusters américains. Est-ce que c'est pas normal, ça?
Et ce qu'on dit, c'est simplement, on n'a pas, il faut, alors là, la proposition qu'on nous fait, c'est, chaque fois que vous aurez une publicité pour un film américain, il faudrait que vous ayez un film français, enfin. On dit simplement, Inès, que vous favorisiez les petits budgets. C'est facile, ça. On peut faire un taux de remise de 60 ou 70% pour un petit film et on fera un peu moins pour des gros films. Ça, c'est des choses faciles à mettre en place. Sur la télévision segmentée, qui est la publicité de la télévision segmentée. Donc l'idée, c'est demain, on va pouvoir faire comme sur Internet et la publicité pour Léa sera différente de celle de Gilles ou celle de Nicolas.
Voilà, bon. C'est ça. C'est-à-dire, si vous habitez à Ajaccio ou à Nantes, vous aurez des pubs pour des entreprises près de chez vous.
Donc ça, c'est ce qu'on fait.
Ça, vous avez obtenu, ça.
C'est ce qu'on obtient. C'est ce qu'on vit tous les jours, dès qu'on ouvre son compte Google, etc., sur Internet, et vous avez des publicités qui sont ciblées. Et là, le ministre dit, on va vous l'autoriser, mais ça serait trop facile de vous mettre exactement à égalité avec les GAFA. Ça, c'est pas possible. On va vous interdire de préciser l'adresse du commerçant.
Oui, mais pourquoi il fait ça, Gilles Pélisson? Pourquoi il dit ça?
Alors parce que
pour préserver la PQR.
Dit, la PQR et la radio.
Oui.
Et on dit, écoutez, à un moment, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quand même qu'on se bat contre Google et contre Facebook, où il n'y a aucune interdiction, il n'y a aucune obligation.
Oui,
donc à un moment, soit
sujet.
Vous encadrez ces acteurs, vous les obligez à participer au financement, vous leur mettez des bâtons dans les roues, ok, pourquoi pas. Mais à un moment, les enjeux sont tels qu'il faut nous aider en tant que modèle de télévision.
En fait, c'est vrai que vous avez pas mal gagné quand on regarde. Vous allez pouvoir diffuser plus de films, vous allez avoir plus de pubs, vous allez
pas plus de pubs dans les contraintes que l'on dit, c'est pas vrai.
D'accord, mais vous aurez une troisième coupure si vous le souhaitez.
Mais la troisième coupure, c'est sur des films de plus de deux heures. Donc si vous voulez, là, on vous amuse. Le nombre de films de plus de deux heures qu'on passe par heure. Non, mais je veux dire.
C'est que de la com, en fait.
Mais bien sûr. Mais on est dans la politique.
Ah. À vous écouter, il faudrait aucune réglementation, il faudrait aucune règle.
Non, mais à un moment, vous avez ces champions.
Est-ce que c'est pas normal que le ministre aussi établisse des règles?
Je vous écoutais tout à l'heure, je crois que vous parliez du groupe LVMH qui pèse 200 milliards de dollars. Disney aujourd'hui, c'est 269 milliards de dollars au cours d'hier. Apple et Google, c'est 1000 milliards de dollars. Ce sont des géants. Ces groupes sont intégrés des studios, de la production jusqu'à la distribution. Donc on a affaire à des mammouths.
Ils vous font
peur. Donc à un moment, Nous, les chaînes françaises, on se bat pour quoi ? On se bat pour la pluralité culturelle. Donc, quand on fait le Bazar de la Charité, quand on fait Jacqueline Sauvage, l'année dernière avec Muriel Robin, quand on a cette diversité et cette pluralité, c'est quelque part défendre nos valeurs, défendre la créativité française, permettre à de jeunes auteurs, à des acteurs français d'émerger et de se faire un nom. Et ces plateformes numériques sont aujourd'hui des amplificateurs fabuleux. Donc tout ça, c'est très bien.
Mais vous avez peur, quand je vous entends citer la litanie des Disney+, des Amazon qui arrivent, qui débarquent en France?
Bien sûr qu'on a peur.
Vous avez peur? En fait, vous pensez que la télé à l'ancienne, la télé traditionnelle, la télé linéaire, va disparaître?
Elle ne va pas disparaître, mais elle sera consommée de façon différente. Et c'est vrai que, une fois de plus, les journées n'ayant que 24 heures, on le voit tous. À un moment, une fois que vous vous faites une série sur Netflix, et un peu de temps en moins, vous allez regarder sur nos fictions, sur nos divertissements, etc. Et aussi, nous sommes des groupes de presse. Donc aussi, sur nos journaux télévisés, on a des rédactions. Moi, je suis très fier de ce qui se fait à TF1 pour des documentaires, des magazines. Donc tout ça, fragiliser notre modèle, c'est aussi fragiliser, vous voyez, l'ensemble de cette ambition, qui est une véritable ambition, et sur lequel je crois, en tant qu'Européen, on doit se battre, parce qu'on ne doit pas être dans les mains que de grands groupes américains, voire demain, de groupes chinois.
Ouais, vous dites ça, et en même temps, vous avez coproduit le Bazar de la Charité, qui passait hier soir, avec Netflix. Vous avez pactisé avec le méchant qui arrive. Pendant longtemps, les grandes chaînes américaines ont fait ça, elles ont coproduit des séries avec Netflix, et elles se sont rendues compte qu'elles se sont fait avoir. Elles ont arrêté de le faire. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à la fin, quand vous coproduisez le Bazar de la Charité avec Netflix, c'est Netflix qui gagne et vous qui perdez?
Alors soyons précis, les équipes chez nous de Hara Aprikian, qui pilotent aujourd'hui les contenus dans le groupe TF1, produisent, avec Iris Bucher, la productrice, le Bazar de la Charité. Et Netflix vient plutôt sur la fin du projet pour avoir un complément de financement. Et là, c'est vrai que dans la situation économique, je suis logique avec moi-même, je suis très heureux de voir quelqu'un qui va m'acheter, bien sûr, cette production. Et pendant 4 ans, elle sera, à la fin au-delà du dernier épisode et de 7 jours après le dernier épisode, elle sera disponible sur Netflix. Donc c'est un beau complément qui va me permettre de faire encore plus de programmes.
Oui, mais à la fin, ce sera une série Netflix, ce sera pas une série TF1 dans le monde
non,
entier.
Non, parce qu'au bout de 5 ans, elle reviendra chez nous. Donc voilà, on est dans ce monde-là.
On compose, quoi.
Exactement.
La télé, les jeunes ne regardent plus la télé.
Est-ce que moins la télé. Parce que quand j'interroge, est-ce qu'ils vont vous regarder quotidien, quand vous regardez, vous avez vu Yann Barthès, vous avez vu Burger Quiz, ils lèvent tous le doigt.
Alors ça, c'est un de vos grands succès, c'est de relancer TMC avec notamment Quotidien d'Yann Barthès et le Burger Quiz, ça marche bien. Deux transfuges de Canal, en fait, vous avez importé l'esprit Canal sur TF1, où le groupe TF1 est devenu le temple de la bien-pensance, comme le dit Valeurs Actuelles.
Non, on préfère plutôt dire on a plutôt importé un esprit canaille que Canal. Mais je crois que c'est plutôt l'idée de dire un groupe comme TF1, si on a plusieurs chaînes de télévision, vous avez effectivement le côté un peu central, mainstream de TF1, avec Massinger, avec des renouvellements, des grands succès comme The Voice, etc., etc. Et puis, il peut y avoir un peu d'impertinence, il peut y avoir un peu de décalage. Et ça, c'est ce qu'on se plaît à faire sur TMC avec un certain succès.
Il y a du décalage aussi sur les chaînes d'info. Interrogé la semaine dernière sur le cas d'Éric Zemmour, qui est maintenant sur CNews et dont LCI, votre chaîne info, avait diffusé le discours en intégralité avec Marion Maréchal-Le Pen, le président du CSA était assez dur, estimant que LCI et CNews sont dans une stratégie de recherche du show, du clash, du spectaculaire pour tenter d'exister. C'est devenu ça, une chaîne d'info. Il faut cliver pour marcher.
Non, je crois qu'on s'est attaché avec Fabien Amias, Thierry Tuilier, qui sont les patrons de l'info dans notre groupe, à développer sur LCI, qui partait avec un certain handicap. Enfin, dans cette maison, vous avez il y a France Info en 27, nous on est en 26, donc c'est pas facile. Et je crois qu'on a bien remonté la pente depuis qu'on est passé en clair. Les débats de David Pujadas pendant les Gilets jaunes ont marqué l'opinion française. On a obtenu des scores d'audience de 1 million de Français qui sont allés voir ces débats. Donc je veux dire, c'est plutôt la qualité de ces débats qui marque les Français. Et aujourd'hui, je suis ravi de voir les performances que nous avons.
Oui, mais vous perdez toujours plus de 20 millions d'euros par an. LCI perd toujours. Est-ce que c'est tenable à terme?
C'est tenable. C'est la fragilité du modèle économique. C'est-à-dire qu'à la fois, on a la chance d'être un grand groupe. Donc on peut éventuellement s'offrir et se payer ces pertes-là à partir du moment où on considère qu'effectivement il va y avoir un succès derrière et que petit à petit les Français apprécient ce qu'on fait sur LCI.
Et la radio, Repin rachetée par TF1, ça vous fait rire? C'est du registre du fantasme?
Oui, je crois qu'ils perdent aussi beaucoup d'argent. Vous voulez absolument que je cumule les pertes?
Non, je sais pas, je vous pose la question, ça vous intéresse pas?
Comment? Non, pas aujourd'hui. Non, c'est pas du tout dans notre stratégie.
Merci Gilles Pélisson.
Merci beaucoup.
Belle journée à vous.